La voix de l'Indonésie. Les informations.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. La Belgique est sûre que la valeur des exportations et des importations avec l'Indonésie connaîtra une croissance dans l'année à venir. ASEAN SITF discute la sécurité des drogues par voie maritime à Batam. L'Indonésie offre le développement de la nouvelle ville industrielle en Chine. Merveilleuse Indonésie a remporté 2 prix à Sydney. Voici le journal complet. L'Indonésie et la Belgique continuent à intensifier la coopération dans divers domaines, en particulier dans les domaines social, culturel, politique, économique et touristique. Concernant la Journée nationale belge qui est célébrée chaque année le 21 juillet, l'ambassadeur de Belgique en Indonésie, Patrick Herman, a affirmé à la Radio République Indonésie à Jakarta que la coopération économique entre l'Indonésie et la Belgique sont susceptibles d'augmenter. Même Patrick est sûr que la valeur des investissements entre les deux pays augmentera.
So the trade is $1.5 billion. Indonesia exports for $1 billion.
La valeur du commerce entre la Belgique et l'Indonésie a atteint 1,5 milliard de dollars. Les exportations d'Indonésie ont atteint 1 milliard de dollars chaque année et sont encore en croissance assez rapide en 2014 et sont en légère croissance en 2015. Mais la valeur de ces exportations est un peu différente dans le commerce international. L'exportation belge a atteint 500 millions de dollars, plus ou moins croissance très lente et pas du tout développée. La tendance est très bonne, surtout pour l'Indonésie, et nous sommes confiants que la tendance va se poursuivre. En outre, Patrick Herman a expliqué que la croissance de l'investissement pour les investisseurs belges qui investissent en Indonésie continue d'augmenter, de sorte que, selon Patrick, l'Indonésie est un pays qui est très significatif pour la Belgique pour un bénéfice mutuel dans l'amélioration de la coopération entre les deux pays dans divers domaines. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, a noté 80% du trafic de drogue par mer se produit souvent dans toutes les parties du monde, y compris la zone de l'ASEAN. En Indonésie, la contrebande par voie maritime ne peut pas être séparée de la condition géographique, de sorte que ceux qui appliquent la loi dans le domaine des stupéfiants de l'ASEAN se sont entendus sur la nécessité d'établir le groupe de travail d'interdiction de ports maritimes de l'ASEAN, ASEAN SITF. La première réunion de l'ASEAN SITF est tenue les 20 et 21 juillet 2016 à Batam sur la base du mandat de la réunion d'ASOD et encouragée par les ministres de l'ASEAN en charge de la question des drogues en octobre 2015. Le directeur de l'Agence nationale des drogues, le commissaire général Budi Waseso, au cours d'une conférence de presse à Batam mercredi, a déclaré que cette réunion a une signification dans le renforcement du secteur d'interdiction du port d'Indonésie à proximité des faits de trafic de drogue par voie maritime. La condition géographique d'Indonésie est très préjudiciable à la résistance d'un pays, mais extrêmement rentable pour les villes des stupéfiants, y compris Batam, Medan et Kalimantan Est. Waseso a ajouté, l'Indonésie dans la réunion ASEAN SITF introduisait le concept et le mécanisme d'interdiction globalement en souhaitant que l'Indonésie soit un rôle modèle pour d'autres pays membres de l'ASEAN. L'Indonésie offre le développement de la nouvelle ville industrielle à l'investisseur chinois China Fortune Land Development, CFLD. Lors d'un entretien avec le ministre de l'Industrie, Saleh Hussein, comme affirmé le directeur général du développement des zones industrielles du ministère de l'Industrie, Imam Haryono, mercredi à Jakarta. Selon Imam, CFLD possède 5 avantages qui peuvent être profités pour développer la nouvelle zone industrielle en Indonésie, à savoir la capitale, l'expérience, la marchandisation, l'accès et l'innovation. Ainsi, le gouvernement va accommoder l'investissement ayant pour la valeur de 100 millions de dollars américains en Indonésie. À partir d'offrir 14 zones industrielles hors de Java étant développées jusqu'à les zones industrielles plus proches à l'île Java qui commencent d'être développées, par exemple Mesuji, Kendal, JIIPE, Gresik. Bien qu'il ne fixe pas encore l'allocation de développement spécifiquement, CFLD s'engage de choisir l'Indonésie comme pays de priorité. Ces résultats, voici l'interview avec l'ambassadeur de la Belgique en Indonésie, Patrick Herman, sur la Journée nationale belge.
Chers fidèles amis, maintenant je suis avec l'ambassadeur de Belgique en Indonésie, M. Patrick Herman, pour l'interviewer à l'occasion de la Journée nationale de la Belgique. Bonjour, M. l'ambassadeur.
Bonjour.
M. l'ambassadeur, à propos de la Journée nationale de la Belgique, pourriez-vous nous parler et expliquer comment la situation actuelle à la Belgique,
La situation actuelle de la Belgique est, est intéressante. Je crois que personne en Indonésie n'ignore ce qui s'est passé en mars 2016, il y a 4 mois, à Bruxelles et à côté de Bruxelles, avec des attentats qui ont causé la mort de près de 40 personnes et aussi qui ont fait des dizaines et des dizaines de blessés. Beaucoup de gens qui sont encore à l'hôpital, qui souffrent encore dans leur chair, qui resteront marqués ou bien physiquement ou bien psychologiquement pour le reste de leur jour, en ce compris aussi une famille indonésienne. Et en cette fête nationale, en ce jour de célébration, nous voulons aussi avoir une pensée pour les victimes belges et autres du terrorisme en Belgique, en France aussi, en Indonésie et dans le reste du monde. Mais c'est aussi une Belgique qui reste optimiste. C'est une Belgique qui célèbre son 186e anniversaire. C'est un pays qui est mûr, c'est un pays qui a traversé des guerres, qui a traversé déjà des périodes de terrorisme, qui a traversé des périodes de tensions énormes et qui a montré énormément de résilience. La résilience, pour l'instant, est aussi une résilience économique. Comme l'Indonésie, la Belgique a traversé plutôt bien les crises économiques des dernières années. L'économie continue à grandir. Nous pouvons à peine rêver de chiffres de 5 ou de 6% ou de 7% de croissance comme l'Indonésie ces dernières années, mais elle continue à grandir et le gouvernement actuel aussi continue à créer de l'emploi. Ceci dit, nous avons d'énormes défis dont nous savons que nous devons les régler. Ce sont les inégalités sociales, c'est le défi du chômage, c'est aussi le défi d'une radicalisation croissante d'une partie de la population belge. Je ne parle pas d'un groupe religieux en particulier, d'une colère, d'un ressentiment qui est de plus en plus important et que nous devons apprendre à combattre au travers de mesures sociales, au travers de l'éducation, au travers d'un dialogue national. Donc c'est un pays qui se pose des questions, c'est un pays qui a souffert, mais c'est aussi un pays qui reste optimiste. Nous ne devons pas non plus oublier que Bruxelles n'est pas que la capitale de la Belgique, Bruxelles est aussi la capitale de l'Europe. Comme vous savez, là aussi, ces dernières semaines, il y a eu un tremblement de terre, pas un vrai tremblement de terre, mais un tremblement de terre institutionnel. L'Europe va changer, l'Europe va continuer à avancer, Bruxelles restera au centre de la construction européenne, mais nous devons aussi réinventer l'Europe, une Europe plus proche des citoyens, une Europe plus proche des gens, une Europe plus proche de leurs soucis quotidiens, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient liés à leurs conditions de vie, à leur environnement de vie, liés à la sécurité. Donc, beaucoup de défis, mais la Belgique en a connu beaucoup d'autres par le passé. Donc, c'est une fête nationale encore un peu triste, 4 mois après les attentats. Mais c'est aussi une fête nationale tournée vers l'avenir et l'optimisme.
Ok, monsieur, vous allez tout à l'heure sur les c'est maintenant en Belgique, c'est encore triste. Est-ce qu'il y a pour la campagne, ici en Russie aussi, le janvier, c'est un an aussi frappé par le terrorisme. Est-ce qu'il y a le plan spécifique pour surmonter la menace de violence et de terreur? Est-ce qu'il y a la coopération avec l'ONU pour ça?
Oui, deux choses. Certainement deux coopérations. Comme vous le savez, le terrorisme n'est pas un phénomène qui peut être combattu dans un seul pays. C'est un phénomène qui comme les nuages de pollution ou comme d'autres phénomènes liés à l'environnement ne s'arrête pas aux frontières. On ne peut pas arrêter la pollution aux frontières, on ne peut pas véritablement arrêter le terrorisme aux frontières. C'est un problème global, c'est un problème qui existe pour l'instant sur les cinq continents et c'est un problème qui doit être combattu sur les cinq continents en même temps, ensemble, en coopération, en coordination. Cela appelle deux éléments. Un, l'échange d'informations et l'échange d'expériences, l'échange de connaissances en matière de lutte contre le terrorisme, en matière d'enquête, en matière de police, mais aussi en matière de répression, en matière de lutte contre la criminalité. Et ça, c'est important, et je crois que nous avons là plusieurs projets aussi, que ce soit dans le cadre de l'ASEM, qui a tenu son sommet à Ulaanbaatar en présence du vice-premier ministre Didier Reynders et du vice-président Kala la semaine dernière. Nous participons ici aussi à un ensemble de conférences, comme celle qui aura lieu à Bali le mois prochain, organisée par l'Indonésie, où nous serons. Nous avons des échanges aussi entre les polices, entre les unités antiterroristes des deux pays. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est l'expérience indonésienne sur la tolérance, sur la coexistence, sur la lutte contre la radicalisation par l'inclusion, par l'écoute, par l'entente et aussi par l'action de groupes comme Nahdlatul Ulama, comme Muhammadiyah ici en Indonésie. Et là, nous voulons aussi apprendre pour le bénéfice de nos propres communautés en Belgique de la part de l'Indonésie, comment nous pouvons aussi créer des dialogues intranationaux entre les différentes religions et au sein des différentes religions pour combattre le radicalisme, pour combattre la haine et pour construire quelque chose ensemble.
Et maintenant, c'est pour la coopération socio-économique et culturelle qui sont déjà établies. Pourriez-vous nous expliquer quels aspects et secteurs qui ont la tendance satisfaisante pour les deux côtés? Et est-ce que vous avez dit tout à l'heure sur les questions de Brexit, est-ce que ça peut déranger ces coopérations avec l'Indonésie et la Belgique?
Oui, les coopérations sont très importantes et comme vous parlez du Brexit, il faut rappeler aussi qu'elles ne se passent pas uniquement d'un point de vue bilatéral, mais aussi au travers de la coopération entre l'Union européenne, dont la Belgique est un des États membres, et l'Indonésie, avec énormément de choses qui se font dans le domaine du film, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la création artistique, dans le domaine de la création littéraire. Et l'année prochaine sera une année absolument exceptionnelle pour la relation entre la Belgique et l'Indonésie dans ces domaines. Nous aurons le Festival Europalia, qui sera ouvert à Bruxelles le 10 octobre 2017. Nous parlons de 300 événements, nous parlons de 300 salles de théâtre, salles d'exposition, salles de musique. Nous parlons aussi, probablement, nous l'espérons, de près d'un million de visiteurs. Une expérience unique en termes de présence de la culture et de l'art indonésien à Bruxelles, en Belgique, et dans l'ensemble de l'Europe du Nord, parce que parmi ces 300 ou ces 400 ou ces 500 événements, beaucoup auront lieu aussi juste à côté de la Belgique, dans le nord de la France, dans le sud des Pays-Bas, dans l'ouest de l'Allemagne. Nous espérons qu'au-delà des grandes expositions que nous aurons sur le patrimoine indonésien, Sriwijaya, Majapahit, les expositions que nous aurons sur les peintres indonésiens du 19e siècle et du 20e siècle, les expositions que nous aurons sur l'histoire de l'Indonésie, sur la culture, mais aussi sur le wayang, sur le gamelan, sur tout un ensemble de formes d'expression indonésiennes qui sont souvent mal connues en Europe. Nous voulons aussi créer un de véritables échanges qui concerneraient des artistes eux-mêmes, donc des résidences, des artistes qui iraient travailler, qui iraient créer des œuvres en Belgique, des étudiants aussi, des écoles, parce que nous pensons que célébrer l'art, ce n'est pas seulement célébrer l'art d'hier ou célébrer l'art d'aujourd'hui, mais c'est aussi construire l'art et les relations artistiques de demain. Et donc, dans la dimension d'Europalia, et comme nous le faisons déjà, nous ne voulons pas seulement célébrer des artistes existants, mais nous voulons aussi créer de nouvelles générations d'artistes en mettant des artistes belges, des artistes européens et des artistes européens, qu'ils soient adultes ou que ce soit encore des jeunes, des enfants, dans une situation où ils peuvent s'enrichir de la culture de l'autre.
Ok, peut-être si on peut en effet. Est-ce que c'est le, peut-être c'est la dernière. Pourriez-vous décrire l'Indonésie, comment l'importance de l'Indonésie pour la Belgique?
L'importance de l'Indonésie pour la Belgique, et je crois que je vais un peu retourner aussi à la même image que pour la culture. Le passé est important. Nous avons une très très longue histoire. Nous avons maintenant 66, bientôt 67 ans de relations diplomatiques. Nous avons une relation intense en matière économique, en matière politique, en matière culturelle, en matière scientifique, en matière d'éducation. Mais surtout, surtout ce que nous avons ici et ce qui fait l'importance de l'Indonésie, c'est le potentiel énorme. Simplement parce que, aussi importante que notre relation économique puisse être ou technologique puisse être à ce moment, elle est relativement réduite quand nous la comparons avec nos relations avec beaucoup d'autres États en Asie du Sud-Est, certains d'entre eux beaucoup plus petits que l'Indonésie et beaucoup d'entre eux avec des perspectives de développement qui ne sont pas aussi grandes que l'Indonésie. Donc l'Indonésie est importante parce que nous avons un milliard et demi d'échanges commerciaux par an, ce qui n'est pas rien en euros, ce qui n'est pas rien en dollars, mais elle est importante aussi parce que le capital, les possibilités, les opportunités restent encore largement sous-utilisées. L'Indonésie peut exporter beaucoup plus vers la Belgique et la Belgique pourrait exporter plus vers l'Indonésie. Plus d'entreprises belges doivent investir ici dans le futur et nous espérons qu'un nombre croissant, même s'il n'y en a pas encore à ce stade-ci, d'entreprises indonésiennes qui vont passer à la vitesse supérieure dans leur développement investiront en Europe. Donc un présent important mais un futur qu'il est encore plus parce qu'il y a encore une marge énorme de développement pour nos relations économiques, pour nos relations commerciales, pour nos relations technologiques et scientifiques.
Ok. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur.
Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir.